L'actualité des Alpes du Sud et ce coup dur pour les boîtes de nuit.
Le gouvernement décide d'une fermeture jusqu'à début janvier de ces établissements pour faire face à la cinquième vague de coronavirus. Depuis le début de la pandémie, ils ont affiché porte-close durant 16 mois. L'UMI dans les Alpes du Sud demande des mesures d'accompagnement urgentes.
Le festival du top décidément sous le coup de la malchance.
Le collectif Pot of the Top a annoncé l'annulation de l'événement prévu samedi à Digne-les-Bains en raison de la crise sanitaire. Une décision préfectoral.
Grève des professionnels du social et du médico-social.
Éducateurs, infirmiers à domicile, professionnels de la protection de l'enfance, ils demandent de pouvoir toucher eux aussi la prime Ségur ainsi qu'une revalorisation salariale, mobilisation à Gap et Digne-les-Bains.
C'était le 2 octobre 2020, la tempête Alex s'abattait sur les Alpes-Maritimes.
Une tempête qui avait causé d'importants dégâts. De là est née l'idée d'un groupe d'architectes d'urgence qui doit intervenir lors de catastrophes naturelles. Ils sont 30 aujourd'hui en faire partie.
Et alors que vous cherchez des idées cadeaux pour remplir la hotte du Père Noël, ben voilà de quoi faire des heureux.
Ce sont deux artisanes aux doigts de fée, Lucie et Claire. Elles ont fondé à Saint-Laurent-du-Cros, Ilaquet, un atelier de verre qui fournit de grandes enseignes comme Ducasse. Côté météo, eh bien de bonnes conditions en journée, mais il faudra attendre une dégradation ce soir.
Oui, parce que le ciel est encore nuageux quand même au lever du jour, mais il y aura de belles améliorations en cours de matinée avant, comme vous le dites, Cyrielle, eh bien, le retour des nuages l'après-midi, que ce soit sur les Hautes-Alpes ou les Alpes de Haute-Provence. Côté température, les maximales sont moins froides, hein, comptez 2 à 4 degrés de plus hein, par rapport à ce lundi, donc 5 à 8 degrés en vallée sur les Hautes-Alpes aujourd'hui, il fera 0 à 2000 mètres sur les Alpes de Haute-Provence, ça s'échelonne de 7 à 11 degrés. Et tout d'abord, un homme de 31 ans conduit dans un état très grave à Marseille après une lourde blessure au bras.
La victime effectuait des travaux forestiers à Castellar-Mélan quand elle a été touchée au bras, provoquant une hémorragie. Les pompiers ont été alertés vers 14h50 ce lundi. 4 sont intervenus sur place avant que le trentenaire ne soit donc évacué par hélicoptère sur Marseille. Actualité judiciaire également ce mardi avec un homme sans domicile fixe qui devra répondre d'extorsion aggravée. C'est ce samedi vers 2h du matin à Digne-les-Bains qu'il a été interpellé par les policiers. L'homme de 21 ans en situation irrégulière aurait pénétré avec un complice dans une habitation avant de menacer l'occupant avec un couteau pour lui soutirer de l'argent. Un peu plus tard dans la même nuit, le propriétaire d'une maison prévenait la police pour avoir mis en fuite 2 hommes dans son jardin. L'individu en question a donc été interpellé alors qu'il se cachait derrière une voiture. Il a refusé durant sa garde à vue de donner l'identité de son complice. S'il a nié les faits, les deux victimes l'ont parfaitement reconnu. Il est donc convoqué devant la justice pour le 25 février.
Le secteur de la nuit craint à nouveau des jours difficiles.
À peine 5 mois d'activité et les discothèques se voient à nouveau baisser le rideau jusqu'au moins au début du mois de janvier. Depuis le début de la pandémie, ces établissements sont restés fermés pendant 16 mois. Professionnels sacrifiés, écrivent les représentants de l'hôtellerie et de la restauration, dont l'UMI dans les Alpes du Sud. Entre les pertes de chiffre d'affaires et les dettes, ils craignent des professionnels à l'agonie et demandent à l'État des mesures d'aide urgente, notamment les exonérations de charges, le fonds de solidarité ou encore le report des remboursements des prêts garantis par l'État. Une réunion doit se tenir aujourd'hui à Paris avec le ministre délégué des PME, Alain Griset, et convenir des modalités d'accompagnement. En tout cas, cette décision est lourde pour le secteur qui met en avant le protocole sanitaire appliqué scrupuleusement depuis la réouverture. Et s'étonne que des différences n'aient pas été décidées entre vaccinés et non vaccinés. Ces restrictions viennent pénaliser les Français et les clients qui ont fait le choix de la vaccination, terminent les organisations. Et puis décidément, le festival du Top à Digne-les-Bains lui aussi connaît des coups durs. Nouvelle annulation pour son festival qui devait se tenir ce samedi au Palais des Congrès. Décision préfectorale, nous restons la tête haute, disent les organisateurs. Le projet du Top est sur les rails, rien ne l'arrêtera. Un projet qui doit réhabiliter cet ancien cinéma de Digne-les-Bains. Le barreau des Alpes d'Haute-Provence appuie la tribune de 3000 magistrats et d'une centaine de greffiers. Une tribune publiée dans Le Monde pour dénoncer une justice qui n'écoute pas, qui résonne en chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise tout. Conséquence, on juge vite et mal ou bien, mais dans des délais acceptables, c'est ce qui est écrit. Le bâtonnier basalpin Pierre-Philippe Colger exige que la justice française et notamment les juridictions des Alpes de Provence soient dotées de moyens humains et financiers dignes d'un état de droit.
Et puis dans la Grogne, toujours, le social et le médico-social en grève ce mardi.
Ils seront rejoints par les professionnels de la protection de l'enfance et des soins infirmiers à domicile, des professions qui demandent la revalorisation des salaires, mais surtout la prime Ségur, cette prime de 183 euros pour les personnels soignants qui a fait des oubliés. La CGT dans les Alpes du Sud réclame aussi l'arrêt des restructurations, l'ouverture de structures pour les personnes porteuses de handicap ou pour la protection de l'enfance. Un dernier domaine qui mérite, selon le syndicat, une politique nationale. Un rassemblement aura lieu à 10h30 devant le conseil départemental de Digne-les-Bains avant qu'une délégation ne soit reçue en préfecture. Mobilisation également 14h devant le conseil départemental de Gap.
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex abattait sur les Alpes-Maritimes. 10 personnes perdaient la vie, 8 autres n'étaient jamais retrouvées. Les crues dévastaient les vallées de la Tinée et surtout celles de la Vésubie et de la Roya.
Le conseil régional de l'Ordre des architectes, PACA, s'était alors mobilisé. Il avait conduit, en partenariat avec la Fondation des architectes de l'urgence, des missions d'évaluation sur le terrain. De là est née l'idée d'un groupe d'architectes d'urgence qui doit intervenir lors de catastrophes naturelles dans la région, alors qu'avec les évolutions climatiques, elles risquent de se multiplier. Pour Arnaud Réau, vice-président de l'Ordre des architectes de la région PACA, ces architectes, justement, doivent être plus conscients et donc plus formés.
Cette cellule, on la veut avant tout régionale, c'est-à-dire que le conseil régional de la région PACA représente environ 2800, entre 2800 et 2900 architectes dans l'ensemble de la région PACA. Le but est de former des architectes de la région avec des spécificités évidemment plus locales. Il y a plusieurs approches. La première, c'est effectivement se dire que on se place dans une position de prévention. C'est l'idée que il faut que les architectes soient en amont des problématiques et donc ils accompagnent les services de l'État à une prospective territoriale qui permette de réduire le risque sur le territoire. Donc ça inscrit les architectes dans différents règlements d'urbanisme ou réflexions de mise en protection des territoires. Et puis, il y a vraiment le temps de la crise, donc c'est de se dire qu'il y a des partenariats à faire avec les services de l'État pour que justement, dans le cas d'une temporalité de crise, que les architectes et le groupe qui soit formé en région PACA soient directement identifiés comme un des acteurs vraiment fondamental de l'organisation de la gestion de crise dès les premiers jours de l'événement.
Après un appel auprès des 2850 architectes de la région, 30 ont été sélectionnés. Ils ont suivi du 1er au 3 décembre une première session de formation à Nice. Ils seront aussi préparés aux dégâts provoqués par des phénomènes sismiques. Une seconde session doit avoir lieu au début de l'année 2022 à Marseille.
Politique, elle a été désignée ce samedi par les militants LR. Valérie Pécresse est la candidate de son parti. Une candidate pas comme les autres pour la droite aux Alpines.
Oui, présidente de la région Île-de-France, mais elle est issue d'une famille importante de Gap, les Roux. Son grand-père, Louis, était mercier. Son oncle, Pierre, ancien président de la CCI des Hautes-Alpes. Son cousin, Jean-François, est l'actuel président du tribunal de commerce de Gap et finalement son père Dominique, un professeur agrégé en économie. La désignation de Valérie Pécresse a donc été accueillie avec une joie particulière pour les Républicains dans les Hautes-Alpes et le président Kevin Parra est d'habitude discret sur les sujets de politique nationale. Le maire de Gap, Roger Didier, considère même que ce serait une chance d'avoir une Gapensaise d'origine à l'Élysée. En bref, 4 projets alpins retenus dans le plan des 1000 premiers jours de l'enfant. C'est cette période entre le projet parental et l'entrée à l'école où la construction des tout petits est essentielle pour leur bon développement. Ces appels à projets lancés un peu partout en France ont pour vocation d'investir dans l'accompagnement des familles. 200 ont donc été retenus dans l'Hexagone, 18 en région et donc 4 à Vennes, Serres, Molinanquera et Gap.
Un mot du Téléthon qui s'est tenu ce week-end dans les Alpes du Sud.
53 300 euros ont été récoltés dans les Alpes de Provence, 46 000 dans les Hautes-Alpes. Sachez que les lignes du 36-37 fonctionnent jusqu'à au moins vendredi 17h. Les centres d'appel attendent donc toujours vos dons.
Alpes 1 reportage avec donc ces deux personnes qui se sont installées au cœur de la vallée du Champsaur à Saint-Laurent-du-Croix pour établir leur atelier de verre.
Lucie Roy et Claire Lange ont été formées au Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers en 2016. Elles créent avec 3 autres femmes une première entreprise en Lorraine. Il y a un peu plus d'un an, elles décident de poser leurs valises dans le Champsaur. De là est né Ilaké, leur atelier. Aurore Valory est partie à la découverte de leur création.
Niché dans la commune de Saint-Laurent-du-Croix, l'atelier Ilaké est à l'image de ses deux créatrices, un lieu accueillant ouvert sur la nature face au massif des Écrins. Lucie Roy et Claire Lange sont passionnées et ça se voit. Une passion qu'elle partage avec ceux avec qui elle collabore très souvent, les chefs cuisiniers, souligne Claire.
Ça ouvre une porte à la création qui est très grande, qui est très vaste, où c'est toujours une collaboration avec des artistes finalement. Ils savent ce qu'ils veulent, ils ont plein de couleurs dans la tête, d'associations.
Et c'est une collaboration un peu particulière qui leur a mis le pied à l'étrier, celle avec le chef triplement étoilé Alain Ducasse, explique Lucie Roy.
Ça a commencé par un salon à Paris, donc qui s'appelle Maison et Objets. La personne qui s'occupe de la décoration des restaurants Ducasse a rencontré Claire et qui lui a passé une première commande pour un restaurant Ducasse qui ouvrait à Kyoto. Donc elle a réalisé un motif exclusif pour ce restaurant-là. C'est vrai que c'est ce qui nous a un peu lancé dans ce travail de vaisselle.
Depuis, plusieurs maisons de référence font appel à leurs services, comme la Bonne Étape à Château-Arnoux-Saint-Auban ou les Olivades à Gap pour les Alpes du Sud. Il faut dire que ces deux jeunes artisanes de 32 ans ont de quoi susciter l'intérêt. Outre le travail pour des chefs, leur création se destine aussi aux particuliers. Et la nature environnante est une véritable source d'inspiration.
Souvent, les clients qui viennent dans la boutique pensent que nos végétaux sont enfermés dans le verre. Alors qu'en réalité, c'est un décor qu'on a dessiné.
Claire et Lucie travaillent avec du verre fabriqué en France, une volonté qui correspond aux valeurs des jeunes femmes.
C'est un verre qui est plutôt pauvre, finalement, mais que du coup, on va venir valoriser avec nos décors et avec justement cet enfermement de bulles d'air à l'intérieur.
On n'utilise pas de verre coloré, c'est-à-dire on part vraiment d'un verre qui est transparent et qui est plat, donc le plus neutre possible. Et c'est notre travail qui va apporter à la fois la couleur, la matière, la brillance ou la matité. Tout ça, c'est au fil des étapes qu'on va la construire.
On adore la sérigraphie parce que du coup, ça nous permet de passer de notre dessin à du coup l'objet. Ça, c'est vraiment notre patte à nous. C'est pas forcément tous les verriers qui travaillent de cette manière-là. Il y a un tissu du coup, qui est tendu avec des mailles très très fines. En fait, on vient appliquer une émulsion photosensible sur l'écran et on vient du coup mettre notre dessin donc, qui est sur un calque, donc avec une encre très très opaque. On vient le mettre sur cette pâte rouge là et on vient du coup insoler, donc mettre beaucoup de lumière sur le châssis.
Les deux créatrices qui ont aussi dû s'adapter à l'altitude du Champsaur et à la météo.
Le verre est très sensible au choc thermique. Il y a tout un travail de courbe de température pour s'adapter à ses caprices, on va dire, et que quand ils sortent, ils ne soient pas cassés, mais qu'il n'ait pas non plus de tension.
Et après, il y a aussi des données, des variables qui vont être la météo. Et pour nous, la plus grande variable, ça a été l'altitude avec le changement Lorraine, où on a quasiment mis 6 semaines avant de retrouver des vraies courbes de cuisson. Et ouais, petit à petit, on a réussi à trouver.
Découpe du verre, chanfrein, application de la sérigraphie, des poudres, fusion, cuisson ou encore finition, une dizaine d'étapes sont nécessaires pour créer un objet inspiré et fabriqué dans le Champsaur par deux artisanes aux doigts de fée.
Merci Aurore, et c'est donc un beau cadeau à glisser sous le sapin. Et justement, l'atelier Ilaké ouvrira exceptionnellement ses portes tous les samedis avant Noël. Les créatrices seront également présentes lors du marché de Saint-Bonnet en Champsaur le 18 décembre. Des stages sont proposés, vous pouvez en savoir plus sur leur site internet. Tant qu'on en est dans la liste à faire au bonhomme en rouge, sachez que le marché de Noël de Gap prendra bel et bien place cette année. Alors que la tradition n'avait pas pu être perpétuée l'an dernier du fait de la crise sanitaire, les Hauts-Alpins et les touristes sont cette année conviés. 31 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. L'inauguration du marché se tiendra ce samedi à 11h, place Jean Marcelin. Le masque et le pass sanitaire seront obligatoires.
Alpe 1 Sport. Avec 8 cas de Covid chez les Rapaces de Gap.
Alors que le protocole permettait au club de jouer malgré 5 tests positifs, la barre fatidique a été franchie ce lundi. 7 joueurs et un membre du staff technique, des indisponibilités qui chamboulent le calendrier avec le report du déplacement de ce mardi face aux Scorpions de Mulhouse et la réception de vendredi à l'Alp Arena contre les boxeurs de Bordeaux. Du côté des Diables Rouges, ils feront face ce soir aux Pionniers de Chamonix, des Pionniers revanchards, tombeurs en quart de finale de Coupe de France. La semaine dernière, les hommes de Daniel Sedlak vont donc jouer le round numéro 2 ce mardi à partir de 20h pour le compte de la 27e journée de Ligue Magnus.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.